Merci d'être avec nous sur RFI, il est 2h à Paris, minuit, temps universel.
Mathis Limano.
La défense civile de la bande de Gaza fait état d'une centaine de morts ce lundi dans l'enclave assiégée par Israël et désormais en proie à une offensive terrestre baptisée Chariot de Gédéon, des chars et des bulldozers. Son objectif, dit Benjamin Netanyahou, est de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Pas de cessez-le-feu dans l'immédiat, mais des négociations à venir. Voilà ce qui ressort du long coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump. De son côté, Volodymyr Zelensky demande au président américain de ne pas prendre de décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Et puis, le Festival de Cannes, épicentre du cinéma pour encore une semaine. En dehors des mégastars, de nombreux acteurs du cinéma découvrent la croisette pour la première fois. Les impressions de l'un d'eux en fin d'édition. Une centaine de morts ce lundi dans la bande de Gaza, selon la défense civile, alors qu'Israël intensifie son offensive en lançant une vaste offensive terrestre et aérienne baptisée Chariot de Gédéon. Objectif assumé du bureau du Premier ministre, prendre le contrôle total du territoire palestinien, déplacer massivement la population et libérer les otages, toujours aux mains du Hamas. RFI Jérusalem, Sami Bourkhlifa.
Le nord de la bande de Gaza rayé de la carte. Après des mois de bombardements intensifs, l'armée israélienne fait sauter à l'explosif, quasiment une par une, les carcasses des maisons déjà en ruine. Les bulldozers et les engins de terrassement finissent le travail de démolition en recouvrant les décombres, des villes entières transformées en terrain vague. Il y a 24 heures, Mohamed, un habitant du nord, a dû se résoudre à fuir sans trop savoir où aller.
Dans le nord, la situation est catastrophique. Ils nous ont interdit de rester sur nos terres. Pour nous pousser à partir, ils nous ont bombardés. On est parti sous un feu nourri. De toute façon, je n'ai plus de maison. On a rassemblé les quelques affaires qu'il nous reste et on est venu ici, dans le centre de la bande de Gaza, à Nusayrat.
Les mêmes scènes de chaos dans le sud de la bande de Gaza. Israël s'empare des terres palestiniennes. La région est vidée de ses habitants. La population est bombardée et affamée. Depuis 80 jours, Israël interdit l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. On ne mange plus qu'une fois tous les deux ou trois jours, raconte Mohamed.
On n'en peut plus. J'aimerais juste pouvoir avoir un bout de pain pour mes enfants. Et tous ces pays à l'étranger, hypocrites et complices qui ne veulent rien faire pour stopper ça et pour protéger les civils innocents. Nous n'avons rien à voir avec cette guerre. En tant que Palestiniens, en tant que Gazaouis, nous n'avons rien fait pour mériter ça.
Sous pression de Washington, le Premier ministre israélien annonce autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire. Benjamin Netanyahou est recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sami Bourkhlifa, Jérusalem. RFI.
Une reprise de l'aide très limitée. À peine 5 camions pour 2 millions de Gazaouis sont entrés dans l'enclave ce lundi. Une goutte d'eau dans l'océan, dénonce l'ONU. Une vingtaine de pays, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, exigent la reprise complète et immédiate de l'aide à Gaza et affirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés face aux actions scandaleuses du gouvernement Netanyahou. Le Premier ministre israélien qui réagit, cette condamnation est une immense récompense pour le Hamas. Ce lundi, au moins 90 personnes sont mortes dans la bande de Gaza. Par ailleurs, les Houthis du Yémen, soutien indéfectible du Hamas, menacent le port de Haïfa, principal port d'Israël, de blocus naval. Tous les navires transitant par Haïfa sont désormais inclus dans notre liste de cibles, a précisé le porte-parole des Houthis. RFI 20h03 à Washington, 3h03 à Moscou, un coup de fil de plus de 2h pour tenter de régler un conflit qui dure depuis plus de 3 ans et qui a coûté la vie à des millions de personnes. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont appelés ce lundi pour échanger sur l'Ukraine. Lila Olkinyura, que ressort-il de ce long appel ?
La conversation s'est très bien passée selon le président américain. Il aura passé très exactement 2h05 au téléphone avec son homologue russe. De son côté, Vladimir Poutine parle d'un appel très utile, d'une conversation très instructive et très franche. Les efforts diplomatiques de ces dernières semaines seraient selon le chef du Kremlin sur la bonne voie et la Russie se tient même prête à travailler à un mémorandum avec Kiev en vue d'un futur accord de paix. Toujours est-il que les choses n'ont pas bougé. Le président russe appelle encore et toujours l'Ukraine à faire des compromis. Lui qui réclame l'annexion de tous les territoires occupés, la démilitarisation et la renonciation de l'Ukraine à entrer un jour dans l'OTAN. Le président américain, qui se veut faiseur de paix, a tout de même assuré que la Russie et l'Ukraine allaient démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Après cet appel, Donald Trump a rendu compte de sa conversation à plusieurs dirigeants européens. Les Occidentaux devraient coordonner étroitement les négociations entre Moscou et Kiev, des négociations qui pourraient se tenir au Vatican suite à la proposition du nouveau pape Léon XIV la semaine dernière.
La proposition du Vatican saluée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui assure que son pays ne retirera pas ses forces des régions sous son contrôle. De leur côté, les Européens annoncent renforcer les sanctions contre la Russie, tandis que d'éventuelles sanctions américaines seraient déterminantes, assure Volodymyr Zelensky. Et puis Donald Trump suggère que le cancer de Joe Biden était connu bien avant son annonce. L'ancien président des États-Unis est atteint d'un cancer de la prostate, une forme agressive de la maladie présentant des métastases osseuses d'après ses médecins. Cette annonce a ravivé chez les alliés de Donald Trump les spéculations de dissimulation du véritable état de santé de Joe Biden pendant la dernière campagne présidentielle, l'un des sujets d'attaque favoris de Donald Trump. 5 ans après le Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord commercial au cœur du deal, un partenariat sur la sécurité et la défense. Ce pacte, Franck Alexandre, il va permettre aux entreprises britanniques du secteur de la défense de participer à un programme de 150 milliards de dollars, d'euros, pour le réarmement de l'Europe.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est félicité d'un accord gagnant-gagnant. Il est vrai que Londres lorgnait ces derniers mois sur les 150 milliards d'euros de prêts du programme européen SAFE, car dans un environnement hautement concurrentiel, l'industrie de défense britannique a ces dernières années souffert de l'arrivée de nouveaux acteurs comme la Corée du Sud et la Turquie. Son accès au programme européen reste cependant encore à finaliser, notamment concernant une contribution financière britannique, mais il devrait également permettre aux Européens de s'atteler à une grande puissance militaire et industrielle, souligne l'économiste Julien Malizard.
C'est une puissance nucléaire au même titre que la France, donc ça permet de crédibiliser davantage l'alliance formée. C'est un pays qui est aujourd'hui au deuxième rang des pays qui dépensent le plus en Europe, c'est-à-dire que si jamais on veut avoir une taille critique, compter sur les Britanniques qui pèsent 70 milliards de dollars à la défense, ça compte pour beaucoup dans un ensemble comme l'Union Européenne qui pèse un peu plus de 300 milliards. C'est aussi un pays qui a une longue tradition militaire. Seule la France a cette logique expéditionnaire bien connue. Ça renforcerait la crédibilité au sens militaire de la chose.
Et au-delà des programmes d'armement structurants auxquels Londres pourra participer, le pacte de défense devrait permettre au Royaume-Uni de rejoindre certaines missions militaires européennes.
Agathe Habyarimana échappe à des poursuites judiciaires. La veuve de l'ancien président rwandais faisait l'objet d'investigations pour son éventuel rôle lors du génocide des Tutsis en 1994. Les juges du tribunal judiciaire de Paris ont conclu que les témoignages à charge étaient contradictoires, incohérents, voire mensongers. Une décision rendue vendredi dernier selon des sources proches du dossier. Agathe Habyarimana, 82 ans, échappe donc pour le moment à un procès. Elle était visée depuis 2008 par une enquête en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Une plainte déposée par le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Cette décision pourrait déboucher sur un non-lieu d'ici quelques mois. Direction la Croisette à présent pour refermer cette édition. La 78e édition du Festival de Cannes bat son plein, un événement très attendu pour de nombreux professionnels du cinéma venus du monde entier. Nous sommes avec le réalisateur malien Moïse Togo. C'est la première fois qu'il vient au Festival de Cannes. Moïse Togo au micro de Guillaume Thibault, venu présenter son dernier bébé.
Né dans le centre du Mali, Moïse Togo a découvert l'image au conservatoire de Bamako. Brillant, posé, à la manière d'un philosophe, le réalisateur cherche avant tout à provoquer le questionnement.
Moi, mon cinéma, je pense que ça sert à questionner la société tout court. Et je donne la possibilité à chacun de s'interroger.
Moïse Togo est venu présenter à Cannes son projet Vaisseau fantôme, documentaire tourné en Casamance au Sénégal, qui fait entendre la voix des familles des migrants disparus.
Avec ces familles-là, il y a aussi la mémoire de ceux qui sont partis. Parfois, c'est un sac. Il y a aussi un arbre aussi qui représente Salif, qui est parti depuis plus de 30 ans. Et moi, je montre l'air quotidien.
En venant à Cannes, en multipliant les rencontres, en découvrant les règles du marché, Moïse Togo a la sensation d'entrer dans la matrice du cinéma.
On est à la recherche de partenariats. On est accompagné par l'Institut français. Donc ça nous ouvre des portes, ça nous donne de la force, de l'énergie d'avancer, de raconter des histoires qui nous touchent profondément.
Long processus, Moïse Togo travaille sur la musique de son film. Il aimerait collaborer avec le Sénégalais Baba Mal et il espère diffuser Vaisseau fantôme en Afrique et dans le monde en 2027. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Et le festival de Cannes se poursuit jusqu'à samedi prochain. 22 films sont en compétition pour décrocher la fameuse Palme d'Or. RFI, il est presque 2h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.